Le journal Bruno Duvic.
Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans le journal de 13h. Au sommaire aujourd'hui, le Brexit est une claque de plus pour Boris Johnson. La suspension du Parlement qu'il avait décidée est illégale, dit la Cour suprême. Les députés doivent à nouveau siéger à Londres dès que possible. La Cour suprême espagnole, de son côté, autorise l'exhumation de Franco de son mausolée. Objectif qu'il soit enterré dans un lieu plus discret, éviter les pèlerinages de nostalgiques des années brunes. L'ouverture de la PMA à toutes les femmes et les autres mesures importantes du projet de loi bioéthique, top départ. Les débats commencent cet après-midi à l'Assemblée. Le climat n'est pas aussi serein que cela. Le texte divise au sein même de la majorité, nous dira Karine Bécard. Et dans la chronique santé de Daniel Messager, les détails du projet qui justement font débat. Une jolie table à repasser en plastique pour faire comme maman, une tenue de pompier pour être un vrai garçon. Le gouvernement promeut une charte pour plus de neutralité dans la présentation des jouets. Est-ce un simple affichage ou un vrai changement? L'invité de ce journal est le secrétaire d'État à l'enfance, Adrien Taquet. Dans cette édition encore, les atteintes à la laïcité à l'école, deuxième rapport de l'ère Blanquer, pas d'inquiétude majeure, mais vigilance dans le primaire, élémentaire et maternelle.
En école maternelle, vous avez des parents d'élèves qui, pour des raisons religieuses, vont remettre en cause le fait que leur enfant dessine. Donc là, ça demande aux équipes de travailler cette question en direct avec les familles, qui distingue ce qui est l'ordre de la croyance religieuse de la réalité de l'enseignement de la République.
Et par ailleurs, le ministre s'en prend à l'association parents FCPE pour une affiche avec une femme voilée. Regardez près de votre gazinière, il y a peut-être un tableau de grande valeur. Bonjour Julie Pietri.
Bonjour.
C'est l'histoire extraordinaire du jour dans l'Oise.
Une maison que l'on veut vendre, que l'on débarrasse, et cette pépite découverte, le Christ moqué, Chimabwe, 4 à 6 millions d'euros.
A tout à l'heure pour les détails. Bonjour Mathieu Vidard.
Bonjour Bruno.
La Terre au carré à 13h30, quel invité?
Je reçois le sociologue Edgar Morin qui publie ses mémoires et c'est l'occasion pour nous de parler de son engagement déjà ancien pour l'écologie. Amis auditeurs, vous pouvez lui poser toutes vos questions sur l'environnement dès maintenant.
13h30, 01 45 24 7000, les questions tout de suite. 13h30, la Terre au carré. Avant cela, nous parlerons rugby et tatouage. Vous comprendrez pourquoi. Le 13h, vous avez le programme, c'est parti.
France Inter.
Les meilleures séries du moment ont été récompensées en ce début de semaine à Los Angeles, mais il y a eu un oubli. Aucune série ne vaut le Brexit. Nouveau rebondissement ce matin. Vous vous souvenez que le Premier ministre avait suspendu le Parlement pour accélérer les débats, aller plus directement vers un Brexit sans accord. Eh bien voilà.
La Cour se doit de conclure que la décision de conseiller à la reine de suspendre le Parlement était illégale, car elle a eu pour effet d'empêcher le Parlement de remplir son rôle constitutionnel, et ce, sans justification raisonnable.
Bonjour Antoine Gignot.
Bonjour.
Boris Johnson, le Premier ministre, n'a plus qu'à s'incliner. Antoine, la Cour suprême britannique s'est prononcée.
Ils sont formels et unanimes, les 11 juges de la Cour suprême. La suspension du Parlement pendant 5 semaines est illégale, nulle et non avenue. Elle a eu, disent-ils, des effets extrêmes sur le fonctionnement de la démocratie. Le Parlement doit pouvoir faire des lois et demander des comptes à l'exécutif. Les députés ont été empêchés de remplir leurs fonctions. Première conséquence, les élus vont probablement reprendre le chemin de Westminster assez rapidement. John Bercow, le président du Parlement, va, dans les heures qui viennent, consulter les chefs des différents partis. Et deuxième conséquence, Boris Johnson, le Premier ministre, plonge dans la tempête. Sa tête s'affiche déjà à la une des journaux de l'après-midi avec ce titre « Coupable, brocardé par son propre camp ». Chez les députés conservateurs, Dominic Grieve l'accuse de s'être conduit de façon grossière. Les députés gallois, les indépendantistes écossais, les travaillistes réunis en ce moment à Brighton réclament sa tête. Je vous laisse écouter l'ambiance.
« The Prime Minister has acted wrongly in shutting down Parliament ».
Boris Johnson a mal agi, lance Jeremy Corbyn. Le chef de file de la gauche se permet même une plaisanterie. Si Johnson s'en va, il aura au moins un record, celui du plus petit nombre de jours passés à Downing Street.
Merci Antoine Gignot, en direct de Londres pour France Inter. En Espagne, un très vaste mausolée près de Madrid est au cœur de l'actualité. Ce mausolée où se rendent des amateurs d'histoire, mais aussi des nostalgiques de la dictature. La vallée de Los Caídos, c'est là en particulier qu'est enterré Franco, l'homme qui a tenu plus que serré l'Espagne des années 40 à 1975. Comment éviter que le lieu devienne un lieu de pèlerinage des nostalgiques des années brunes? Le gouvernement socialiste demandait son exhumation. Eh bien, la Cour suprême vient de lui accorder. Franco sera exhumé. Marie-Hélène Ballestero.
Depuis son arrivée au pouvoir en juin 2018, l'exhumation de Franco était devenue l'une des priorités du gouvernement Sanchez. Après de multiples rebondissements et une longue bataille juridique de 15 mois avec la famille du dictateur, l'exécutif espagnol peut enfin savourer sa victoire. La plus haute instance judiciaire du pays a donc rejeté dans sa totalité le recours présenté par les descendants de Franco. Non seulement la dépouille du dictateur va être exhumée du mausolée franquiste del Valle de los Caídos, la vallée de ceux qui sont tombés, mais en plus, la Cour suprême a rejeté le lieu de réinhumation choisi par la famille du dictateur. Rappelons que ces derniers souhaitaient que la dépouille soit transférée dans le caveau familial de la cathédrale de l'Almudena en plein cœur de la capitale. À l'unanimité, les 6 magistrats de la Cour suprême ont rejeté cette proposition. Comme l'avait demandé le gouvernement socialiste, les restes du dictateur seront transférés dans le petit cimetière discret de Domingo Rubio, au nord-ouest de Madrid, où repose déjà la femme de Franco. Madrid, Marie-Hélène Ballester, France Inter.
L'actualité internationale, c'est encore l'Assemblée générale de l'ONU, l'urgence climatique dans les débats officiels, l'Iran en off et dans les couloirs, Donald Trump et cet après-midi à la tribune de l'ONU, Emmanuel Macron ce soir. Hier, la Russie a définitivement adhéré à l'accord de Paris sur le climat.
France Inter, le journal de 13h, Bruno Duvic.
16h30 cet après-midi, un débat parlementaire peut-être historique, peut-être explosif, en tout cas important va commencer. Pas moins de 3 ministres viennent défendre le projet de loi bioéthique à l'Assemblée nationale. La mesure phare, c'est la procréation médicalement assistée ouverte aux couples de femmes et aux femmes seules. La PMA sans père, disent les opposants qui appellent à manifester le 6 octobre. Pour l'instant, l'écho dans l'opinion n'est pas important. 2/3 des personnes interrogées soutiennent le projet, selon le dernier sondage en date réalisé par l'IFOP. Cela représenterait cette mesure environ 2000 grossesses chaque année, selon le gouvernement. Au-delà de ce chiffre, l'adoption du texte serait un changement dans la société. Changement attendu notamment par les couples de femmes. Voici Marie-Mélie, elle est la maman d'une petite fille née d'une PMA réalisée à l'étranger, évidemment. Elle est au micro de Margot Karoff de France Bleu Saint-Étienne. On entend sa compagne derrière elle. Ce 24 septembre est un jour important pour elle.
Il faut que ça se fasse, il faut que ça se fasse, il faut que ça change, il faut que, voilà. On est en 2019, quoi, il faut faire avancer des choses. Il faut évoluer, il faut que les gens comprennent un petit peu, on n'est pas des pestiférés, on n'est pas des malades, hein, je veux dire, voilà. On s'intègre dans la société comme tout le monde, quoi. Dans d'autres pays, c'est passé, ça se passe super bien. En France, il faut que ça se fasse. Nous, si on n'aurait pas eu ce recours avant Barcelone, on n'aurait pas pu avoir d'enfant. Et c'est pas pour autant que notre fille est malheureuse. Bien au contraire, cette petite fille est très équilibrée, elle va très bien, ça se passe très bien à l'école, avec ses copines, avec les parents, tout se passe très bien. On n'a aucun problème.
Alors la PMA pour toutes les femmes et beaucoup d'autres mesures dans ce projet, la filiation, si le texte est adopté, comme les couples hétéros, les couples de femmes pourront, avant la naissance, chez le notaire, procéder à une reconnaissance anticipée de l'enfant. Les deux mères, celles qui portent le bébé et celles qui ne le portent pas, auront les mêmes droits. Sur l'acte de naissance, il y aura 2 fois mère. Dans le projet encore, la levée de l'anonymat pour les donneurs de sperme ou d'ovocytes. La possibilité de congeler ces gamètes est ouverte beaucoup plus largement. Et puis les résultats des tests génétiques, si on en subit, seront beaucoup plus détaillés. Beaucoup, beaucoup de choses donc. Bonjour Daniel Messager.
Bonjour Bruno.
Votre chronique santé chaque mardi dans ce journal de 13h. Et forcément, il y a des points de crispation. D'abord, celui qui est identifié depuis longtemps, la PMA, c'est-à-dire insémination artificielle ou fécondation in vitro ouverte à toutes les femmes.
Avec la place du père en question, c'est évidemment ce qui va susciter un débat, relancé par l'Académie de médecine samedi dernier, qui n'a pas mâché ses mots, puisqu'elle a parlé de rupture anthropologique majeure qui n'est pas sans risque pour les enfants. Alors c'est un point de vue relayé par quelques pédopsychiatres, pas la majorité, qui a laissé d'ailleurs sceptique Agnès Buzyn, rappelant qu'aujourd'hui près de 2 millions de familles françaises sont monoparentales et qu'on ne peut pas y trouver un lien direct avec un défaut de construction de l'enfant, mais on va l'évoquer, ça c'est sûr, et dès le début certainement.
Autre point de crispation, la levée de l'anonymat pour les donneurs de gamètes.
Alors le point de crispation sur ce sujet est double. D'abord, cette levée d'anonymat, si elle semble actée, car elle est réclamée depuis longtemps par les enfants nés de tiers donneurs, elle pose la question suivante, y aura-t-il toujours autant de donneurs, sachant qu'il n'y en a pas tant que ça, environ 300. Certains ne voudront pas lever l'anonymat et donc ne donneront plus. Ensuite, se pose un problème de personnel. Y aura-t-il assez de techniciens, de médecins dans les centres publics pour répondre à la demande. Car il ne faut pas oublier aussi l'autoconservation des ovocytes qui viendra s'ajouter. Il ne faut pas créer un marché, disent les ministres, mais il y a une demande pour ouvrir aux centres privés du côté de certains députés. Sinon, la future loi risque de ne pas pouvoir être appliquée.
Les dons de gamètes post-mortem, entre guillemets, possibles ou pas ?
Alors, pourquoi ne pas tenir compte du projet d'enfant même si le conjoint est décédé? L'amendement a failli passer en commission. Pourquoi en effet autoriser une PMA pour une femme seule et pas pour une veuve? Puisque dans l'absolu, elle pourrait faire une demande de gamètes, mais qui ne serait pas celle de son mari défunt? Beaucoup trouvent ça évidemment illogique. Un compromis pourrait être débattu sur une limite de durée d'utilisation après le décès du mari.
Autre point, j'en parlais, ces tests génétiques plus détaillés qu'auparavant.
Oui, alors faut-il généraliser les tests génétiques de préconception pour savoir si un couple est porteur d'une maladie pour un futur enfant? Actuellement, ce n'est possible que si un enfant est déjà né avec une maladie génétique. Non à la généralisation, répond le projet de loi. Pourtant, là aussi, la demande est réelle. Et le professeur Friedman, par exemple, rappelle que chez les femmes de plus de 35 ans, une analyse génétique permettrait, en cas de PMA, d'éviter des fausses couches à répétition. Alors voilà, uniquement quelques aspects, encore on n'a pas tout abordé.
Alors je le disais, l'opinion est assez largement favorable à la mesure la plus médiatisée de ce texte, la PMA pour toutes les femmes, mais le débat ne fait que commencer, peut-être évoluera-t-il au fil des semaines, on verra. Bonjour Karine Bécard.
Bonjour.
Le premier constat, Karine, au plan politique, alors que commence ce débat parlementaire, c'est que les députés En Marche ne sont pas aussi unis qu'on veut bien le dire.
Exactement. D'un côté, il y a ceux qui veulent aller plus loin que le texte qui est présenté. Ils vont notamment défendre des amendements pour la PMA post-mortem, pour la PMA pour les transsexuels, et ils attendent même que la question de la GPA, la gestation pour autrui, s'invite dans les débats. Au total, ils sont une poignée, une dizaine, une quinzaine au sein de la majorité. Et puis de l'autre côté, il y a ceux qui au contraire ne veulent même pas qu'on accorde la PMA aux femmes seules. Ils sont d'accord pour les couples de femmes lesbiennes, mais ils ne sont pas d'accord pour les femmes célibataires. Eux sont une trentaine à s'apprêter à voter contre ce droit. Donc non, il n'y a pas de grande et belle unité au sein de La République En Marche. En réalité, la vraie difficulté, qui est toujours la même sur tous les sujets de société, c'est la liberté de vote qui est donnée à tous les députés dans chaque groupe politique de l'Assemblée. Ils vont se laisser influencer par les débats, c'est la démocratie. Difficile donc d'anticiper ce qui va bien pouvoir se passer.
Et alors que s'ouvrent ces débats à l'extrême droite, le Rassemblement National réclame un référendum. Le RN qui est divisé sur le sujet. Emblématique de cela, Marion Maréchal ira manifester le 6 octobre contre le projet. Pas Marine Le Pen. À droite, l'opposition de beaucoup au nom de la pente glissante qui mènerait de la PMA à la GPA, les mères porteuses. À gauche, France Insoumise, Vert, PS, PC voteront très très largement pour le texte, quelques parlementaires socialistes réticents ou opposés. Les débats commencent donc cet après-midi à 16h30. Jour de grève à la SNCF, CGT, Solidaires, FSU, UNSA appellent à défiler contre la réforme des retraites qui aboutira entre 2025 et 2040 à la suppression du régime spécial des cheminots. Moins de trains aujourd'hui, les franciliens ont d'abord davantage pris leur voiture. Une centaine de kilomètres de bouchons de plus que d'habitude ce matin en Ile-de-France. Les prévisions de circulation à propos des trains à l'international, ça doit être normal toute la journée. TGV quasi normal. Les TER 2 sur 5 en moyenne. Intercité 3 sur 5. En région parisienne, des perturbations sur le RER, pas sur le A en principe. Sudrail appelle d'ores et déjà à une grève reconductible à la SNCF à partir du 5 décembre prochain. Par ailleurs, à Nice aujourd'hui, pas de bus ni de tramway. Globalement, la CGT appelle à la grève aujourd'hui. 150 manifestations sont prévues à travers le pays. Une charte pour pousser les filles vers des carrières scientifiques grâce aux jouets. Voilà comment l'agence France Presse présente la dernière initiative du gouvernement. Bonjour Adrien Taquet.
Bonjour à vous.
Secrétaire d'État à l'enfance, c'est une charte au fond pour que la présentation et la mise en valeur des jouets soient plus neutres. C'est bien cela. En quoi consiste-t-elle exactement ?
Absolument. Et le point de départ, c'est exactement ce que vous évoquiez. C'est, on se rend compte que dans les métiers scientifiques, les métiers de l'industrie, les femmes sont sous-représentées. C'est à peine 30% de femmes. Et de la même façon, dans les études scientifiques, très peu de jeunes filles s'orientent vers ce genre d'études. Et on est absolument convaincu qu'il y a une espèce de biais de genre dès la plus tendre enfance. Et moi qui suis chargé de la protection de l'enfance, je sais à quel point, dès le plus jeune âge, ça peut conditionner la représentation du monde et la représentation de soi-même qu'on a dans le monde. Et donc, nous voulons inciter, effectivement, mais c'est de façon totalement volontaire de la part des fabricants.
Alors voilà, premier point, ça n'est pas obligatoire, c'est incitatif.
Non, C'est absolument incitatif et ce matin, tout le monde était autour de la table, les fabricants de jouets, les distributeurs, les associations, pour signer cette charte, donc qui est un engagement à ne pas genrer, ne pas perpétuer des stéréotypes.
Alors,
de genre.
Alors très concrètement, Adrien Taquet, ça passe par plus de rayons filles ou garçons dans les magasins de jouets, par exemple ?
Bah écoutez, après c'est à chacun des acteurs effectivement de s'organiser, mais effectivement qu'on aimerait que les acteurs arrêtent de rentrer par le genre, c'est-à-dire quand vous rentrez dans un magasin, au lieu qu'on vous demande est-ce que c'est pour un petit garçon ou une fille, on pourrait vous dire ben voilà, est-ce que c'est pour un enfant qui aime jouer dehors ou qui aime la découverte ou qui est plutôt aime tout ce qui est loisirs créatifs. Voilà, rentrer par les potentiel et la créativité des jeunes enfants,
toujours dans
forcément par leur genre.
Toujours dans le concret, sur les boîtes, on arrêterait de mettre, je citais ça dans les titres, si vous vendez une gazinière, une cuisinière pour faire comme maman, et si vous vendez un costume de policier pour faire comme papa.
Ben voilà, c'est ce genre de choses, on aimerait que ce soit voilà pour faire comme les grands, hein, et je pense que ça parlera tout autant aux enfants. Vous savez, on a le sentiment qu'on a fait du chemin sur ce genre de sujet, sur les questions de l'égalité homme-femme.
On a le sentiment, mais est-ce que c'est le cas
non, ce n'est pas le cas en réalité. Il y a une sociologue américaine qui s'est prêtée à une étude intéressante en 2015. Elle a regardé le catalogue d'un grand distributeur américain qui s'appelle Sears. Oui. Et à l'époque, en 1975, juste 2% des jouets étaient genrés, stéréotypés par genre. Et puis elle a fait le même exercice sur le site internet d'un grand acteur du divertissement et pour les enfants. Et l'ensemble des jouets qui étaient proposés étaient genrés. Donc en réalité, on a plutôt régressé à cet égard.
Et ça veut dire que l'incitatif ne marche pas, Adrien Taquet. Est-ce que votre charte, ça va pas être un coup d'épée dans l'eau ?
Non, écoutez, enfin moi, ce que j'ai senti ce matin, c'était une volonté partagée et totalement sincère de l'ensemble des acteurs d'aller dans cette direction-là. Et Agnès Pannier-Runacher, qui a l'origine de la secrétaire d'État oui. à l'économie, qui a l'initiative hein, de cette charte, a donné rendez-vous à l'ensemble des acteurs dans 6 mois, après Noël, oui. pour faire un peu un état des lieux sur ce qui a pu être mis en œuvre et encore les voies de progrès. Enfin, je trouve que cette démarche volontariste, partagée par tous, est la bonne.
On regardera à Noël, quel changement est-ce qu'il faudra regarder en particulier ? Qu'est-ce qui peut avancer vite dans les semaines à venir?
Alors, il faut être réaliste, c'est vrai que la Noël, la réalité, c'est que les catalogues de jouets des grands distributeurs sont déjà imprimés, donc je pense que oui. Les changements sont à la marge à cet oui. égard, mais déjà, regardez comment les vendeurs dans les magasins s'adressent
se
à vous, comment sont, oui. se comportent, parce oui. qu'il y a tout un volet information et sensibilisation des vendeurs, mais aussi voir, effectivement, vous l'évoquiez tout à l'heure, comment sont organisés les rayons. Voilà.
Merci beaucoup Adrien Taquet d'avoir
Merci
pris quelques minutes pour nous répondre à propos de cette charte soumise aux fabricants et aux marchands de jouets. La laïcité à l'école, quand il est arrivé au ministère de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer a mis en place une cellule de veille et d'alerte pour surveiller cette question. C'est donc la deuxième année qu'il y avait un rapport sur le sujet. Bonjour Sonia Princey.
Bonjour.
Et ce qu'on remarque, la tendance générale, c'est qu'il n'y a pas davantage d'atteinte à la laïcité que l'année dernière à l'école.
Oui, alors on a une légère baisse des cas recensés dans les lycées, une stabilité dans les collèges où les signalements sont toujours les plus nombreux et une légère augmentation dans les écoles primaires. Et la difficulté, c'est qu'il y a souvent derrière un discours des parents, comme l'explique Rodrigue Coutouli, référent laïcité de l'Académie d'Aix-Marseille.
En école maternelle, vous avez des parents d'élèves qui, pour des raisons religieuses, vont remettre en cause le fait que leur enfant dessine. Ils ramènent des dessins à la maison parce que dans leur religion, la figuration concrète, par exemple des visages, pose problème. Donc là, ça demande aux équipes de travailler cette question en direct avec les familles pour qu'ils distinguent ce qui est l'ordre de la croyance religieuse de la réalité de l'enseignement de la République.
La plupart des cas sont des contestations d'enseignement, le classique refus d'aller à la piscine ou encore d'étudier en art plastique le baiser de Rodin en raison de la nudité. Laurent Lhomme, le référent laïcité de l'Académie de Toulouse, a observé des cas très variés à l'école primaire.
Je fais une précision, c'est que ça concerne toutes les religions. Je vais vous donner un autre exemple qui ne concerne pas, par exemple, la religion musulmane. C'est le refus qu'une fille étudie Harry Potter et qu'elle la plus petite aille au cirque parce qu'il y avait de la magie. Là, ça ne concerne pas la religion musulmane, mais une église, l'appartenance à une église évangélique, par exemple.
Soit les cas sont réglés directement par les établissements, soit les référents académiques gèrent la situation à distance ou se déplacent pour les faits les plus sensibles.
Merci Sonia. Et en ce jour où on examine les atteintes à la laïcité, le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, critique vivement la FCPE, Fédération de parents d'élèves, pour la diffusion d'une affiche de campagne qui défend le droit pour les femmes voilées de faire des sorties scolaires. Affiche qui présente une femme voilée. Voilà ce qu'en dit le ministre ce matin.
Je trouve que la FCPE est une organisation très, très ancienne dans notre paysage scolaire. et qu'elle s'est fondée beaucoup sur le principe de laïcité. Pour moi, ça a été très étonnant de découvrir cela hier, parce que pour moi, la FCPE était plutôt synonyme de laïcité, et donc c'est une sorte de renversement. À mon avis, c'est juste une erreur, d'ailleurs, hein, une forme d'erreur d'appréciation de la part des responsables, et je pense qu'ils vont sans doute corriger cette erreur. C'est d'autant plus regrettable qu'on est dans un moment où il faut être attentif à ce qu'une campagne électorale, quelle qu'elle soit, en l'occurrence une campagne pour les élections de parents, ne cherche pas à flatter le communautarisme, alors que notre République est justement aux antipodes du communautarisme.
Et le ministre rappelle la règle au ministère, les sorties de mamans voilées, sorties scolaires sont autorisées, mais le ministère ne les encourage pas. Voilà les termes utilisés par Jean-Michel Blanquer ce matin. Marine Le Pen l'avait déjà fait par le passé, Jean-Luc Mélenchon le fait à son tour, interdire l'émission quotidien des événements qu'il organise, interdire pour la France Insoumise, décision annoncée hier par Jean-Luc Mélenchon sur son blog. L'ancien candidat à la présidentielle en veut à l'équipe de Yann Barthès qui a filmé la perquisition au cours de laquelle il bouscule un policier, un magistrat, attitude qui lui a valu un procès la semaine dernière. C'est une institution qui se réunit très rarement, la Cour de justice de la République. Son rôle est de juger des ministres pour des actes commis dans l'exercice de leurs fonctions. En l'occurrence, Jean-Jacques Urvoas, lui-même ministre de la justice de François Hollande après Christiane Taubira, il est accusé en toute fin de mandat d'avoir transmis des documents secrets du ministère au député Thierry Solaire sous le coup d'une enquête. Jean-Philippe Deniau.
Justiciable depuis 650 jours, Jean-Jacques Urvoas à la barre, face aux 24 députés et sénateurs qui composent les jurys titulaires et suppléants de cette Cour de justice de la République, dans leur robe de magistrat immaculée. Le prévenu Urvoas se dit un peu gêné d'être là. Il déroule son CV. L'engagement de toute ma vie, c'est le droit. Prof de droit, doctorant, puis député, puis président de la commission des lois de l'Assemblée nationale, garde des Sceaux donc, et prof de droit de nouveau aujourd'hui. L'ancien ministre détaille son action, place Vendôme. Je savais que je n'avais qu'un mandat de 16 mois, alors j'ai repris la devise de Daguesso, chaque jour, défendre la loi et défendre les magistrats. Et je voudrais ajouter aussi, poursuit Jean-Jacques Urvoas, je ne suis pas franc-maçon, je ne connais pas Thierry Solaire, je n'ai pas agi par ambition personnelle, mais bien seulement pour défendre les magistrats. Magistrats qu'il estimait injustement attaqués par Thierry Solaire dans ses déclarations publiques. Les informations que le garde des Sceaux lui a transmises relevaient-elles du secret de l'enquête? Était-il lui-même soumis à ce secret de l'enquête? Non, estime Jean-Jacques Urvoas, simple justiciable depuis 650 jours.
C'est une information que vous nous avez révélée dès ce matin sur France Inter. Bonjour Sophie Parmentier.
Bonjour.
Le retour en France aujourd'hui de 9 enfants de djihadistes avec leur mère. L'une des mères est la nièce des médiatiques frères Klein qui avaient enregistré le message de revendication des attentats du 13 novembre. Ils sont aujourd'hui donnés pour morts. Elle est rentrée pour être jugée en France. Retour automatique aussi pour ses enfants. Car ils sont entrés, précision importante Sophie, par la Turquie.
Oui, et ces enfants dont on peut préciser d'abord peut-être qu'ils sont jeunes, comme la plupart de tous les petits revenants de retour du califat de Daesh. Il y a aujourd'hui deux fratries de retour. L'une de 5 enfants, âgés de 3 à 12 ans, fils et fille de Jennifer Klein, donc une des nièces des frères Klein. Elle est aussi l'épouse de Kevin Gono, récemment condamné à mort en Irak. Dans l'autre fratrie, les 4 enfants ont entre 6 et 13 ans. Leur père est un autre djihadiste redouté, Thomas Collange. Et si ces 9 enfants sont rentrés ce matin avec leur mère, respectives, c'est effectivement parce que leurs mères ont été arrêtées par des soldats turcs quand elles ont cherché à fuir la Syrie cet été. Ainsi, depuis 2014, toutes les familles de djihadistes français arrêtées en Turquie sont automatiquement expulsées vers Paris dans le cadre d'un protocole franco-turc. Les parents sont jugés en France, les enfants sont systématiquement placés auprès de l'aide sociale à l'enfance. Plus d'une centaine d'enfants français sont revenus par ce chemin turc. Alors que des dizaines d'autres enfants du même âge, dont les parents sont accusés des mêmes délits ou crimes, restent retenus dans des camps du Kurdistan syrien. Pour ces enfants-là, la France n'accepte toujours le retour qu'au cas par cas, quand les mères sont d'accord. La France n'a autorisé le rapatriement que d'une 15aine d'orphelins et de 2 enfants dont la mère avait accepté de se séparer en juin. Cette différence de traitement continue de mobiliser de nombreux avocats. Cet après-midi, c'est la Commission nationale consultative des droits de l'homme qui doit voter un avis réclamant sans doute un retour égalitaire pour ces enfants.
Merci Sophie Parmentier. Y aura-t-il un volet français de l'affaire Jeffrey Epstein, ce milliardaire soupçonné d'abus sexuels sur mineurs qui est mort en prison en août? En tout cas, des perquisitions ont été réalisées hier au domicile parisien de l'Américain et au sein de l'agence de mannequins de Jean-Luc Brunel, l'un de ses proches. C'était le 17 septembre. Voilà pour ces perquisitions qui se sont terminées très tard cette nuit en ce qui concerne celle au domicile d'Epstein. Dans la maison, entre la cuisine et le salon, il y avait un tableau de Cimabue et personne n'en savait rien. Un tableau de ce peintre italien du XIIIe siècle, il vaut une fortune. On s'en est aperçu au moment de la vente de la maison. Julie Pietri, c'est l'histoire incroyable du jour. Ce tableau, donc, dans une maison de Compiègne.
Et il trône maintenant, tout petit, 26 cm sur 20, sur un meuble en bois du cabinet d'experts Turquin à Paris. Éric Turquin virevolte depuis ce matin. Coup de fil, questions viennent du monde entier.
Le tableau était en fait dans un petit couloir entre la cuisine et le salon de ces gens. Paraît-il à un mètre de la plaque de cuisson de la cuisine. Alors la scène est sur un fond d'or, donc assez à l'ancienne un petit peu, et l'essentiel est au premier plan. C'est une scène avec une quinzaine de personnes. La figure du Christ qui est au centre, eh bien, ce Christ qui est un peu plus grand que les autres, qui a un manteau bleu alors que les autres n'ont pas de couleur, il sort du lot bien entendu, mais c'est un homme qui souffre et on sent dans l'agressivité dans les visages des autres. On sent que ce peintre, il a introduit de l'humanité.
Et ce tableau faisait en fait partie d'un ensemble, un diptyque dont certains éléments sont aujourd'hui dans des musées à Londres ou à New York.
C'est un immense artiste, Cimabue. On connaît que 10 tableaux de lui. C'est celui qui est passé de la peinture byzantine, un peu hiératique, un peu sèche, un peu, qui répétait en permanence les mêmes sujets, à la peinture moderne. C'est-à-dire, il apporte de l'humanité. On sait qu'on pourra jamais reconstituer l'ensemble. Encore que, il manque 5 tableaux dans la série. Ces 5 tableaux, nous avons beaucoup de chance de les retrouver en France. Ils doivent dormir quelque part, au-dessus d'une plaque de cuisson, dans un grenier. Il faut chercher.
Et voilà, le Christ moqué de Cimabue sera vendu aux enchères fin octobre à Senlis. Prix estimé pour l'instant entre 4 et 6 millions d'euros.
Merci Julie Pietri. En sport, la France joue pour une place en demi-finale de l'Euro de volley. Ce soir, France-Italie à 21h, c'est à Nantes. En cas de victoire, le prochain adversaire sera la Serbie ou l'Ukraine. En foot, c'est déjà la 7e journée de Ligue 1. Les deux premiers matchs ce soir à 19h, Dijon-Marseille. À 20h, Monaco-Nice, le derby de la Coupe d'Azur. Et puis, la Coupe du Monde de rugby, alors c'est pas le jour le plus palpitant. Aujourd'hui, au programme, il y a un Russie-Samoa. Mais cette Coupe du Monde, c'est aussi l'occasion de s'intéresser à la société japonaise, puisqu'elle se tient au Japon. Et cette question, les tatouages des joueurs, très nombreux tatouages sur les joueurs de rugby, gênent-ils les Japonais? Reportage, Jérôme Val.
C'est le sujet qui fâche au pays où les tatouages n'ont pas bonne réputation. Alors, depuis plus d'un an, les promoteurs de cette Coupe du Monde ont fait beaucoup de pédagogie. Expliquer aux Japonais que les tatouages ailleurs dans le monde font partie de la culture de certains peuples. Akira Shimazu est le directeur du comité d'organisation.
Nous avons eu des discussions depuis longtemps dans les villes hautes et dans les villes où s'entraînent les équipes. Nous expliquons aux gens qui viennent voir les joueurs que le tatouage, pour certains, fait partie de leur culture. Et nous devons respecter cela. Il faut se comprendre. On continue encore à en parler, mais je suis sûr que les Japonais en ont conscience et qu'il n'y a pas de problème.
Le Japon a accepté d'assouplir certaines règles. Les joueurs ne sont pas obligés de dissimuler leurs tatouages sur le terrain en match officiel. Quelques onsen, ces fameux bains chauds très prisés au Japon, ont mis en place des horaires spécifiques pour les supporters tatoués. Des stickers ont été distribués pour couvrir les tatouages les plus petits. Mais il est toujours conseillé de se montrer très discret en public pour ne pas choquer. À moins d'un an des Jeux Olympiques, le Japon a compris qu'il valait mieux concéder une toute petite ouverture sur ce sujet sensible. Kumamoto, Jérôme Val, France Inter.
Allez, faut-il se tatouer un soleil ou un nuage aujourd'hui?
La météo avec Via Santé, la mutuelle d'AG2R La Mondiale. Via Santé, la mutuelle qui aide ses adhérents à prendre soin de leur santé. Et vous, comment ça va?
Ça va pas mal, et vous, Elodie Calac?
Du nord-est vers Rhône-Alpes, le massif central et le sud-ouest, on retrouve notre perturbation avec des pluies un peu plus faibles que ce matin malgré tout. De la Bretagne et de la Normandie vers la Gironde, le centre, la région parisienne, les Hauts-de-France, un ciel de traîne s'installe, un ciel partagé entre éclaircies, nuages, quelques averses. Pour échapper à la pluie, direction le pourtour méditerranéen et la Corse, là c'est du soleil. On n'oublie pas le vent, il souffle quasiment partout, jusqu'à 50 à 70 km à l'heure possible. Les températures sont de saison, 17 degrés à Dijon, Aurillac, 18 à Lille, Metz et Brest, 20 degrés à Paris, 21 à Angers, à Lyon, 23 à Bordeaux, 26 à Nîmes ou Bastia. Demain encore beaucoup de nuages, des averses et une nouvelle perturbation.